Il est midi sur Radio Orient. Bonjour à tous, le journal Loïc Barrière. La Cannes 2022 s'est ouverte ce dimanche au Cameroun. Le pays hôte a remporté le match d'ouverture face au Burkina Faso. Entretien dans ce journal avec le journaliste d'Africa à Top Sport, Franck Orokoti. 200 personnes massacrées par des hommes armés ces derniers jours au Nigeria. Après Ramichas, arrivé ce week-end à Paris, un autre militant des droits de l'homme a été libéré par l'Égypte, Rami Kamel, incarcéré pendant 2 ans. Enfin, le pass vaccinal en discussion au Sénat. En première lecture, la députée LR, Anne-Laure Blin, a voté contre à l'Assemblée nationale. Elle est l'invitée de Pluriel ce soir. De nouveaux massacres au Nigeria. Des groupes armés ont tué au moins 200 personnes dans plusieurs attaques ces derniers jours. Des massacres commis par des centaines d'hommes armés venus en moto dans l'état de Zamfara. Des dizaines de personnes sont également portées disparues. Au moins 10 000 autres ont quitté la zone des massacres. Leurs villages ont été entièrement rasés. Le Cameroun s'est imposé ce dimanche face au Burkina Faso 2-1 pour le match d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations, une compétition qui va durer jusqu'au 6 février. Parmi les pays favoris de cette Coupe 2022, l'Algérie, tenante du titre, mais aussi le Maroc et le Sénégal, une compétition marquée par des mesures liées à la crise sanitaire internationale, comme le souligne le journaliste togolais d'Africa Top Sport. Franck Orokoti.
Oui, effectivement, il y a une mise en place particulière dans les stades. Avant d'arriver au stade, d'abord, vous devez faire le test PCR 3 jours avant. Il y a également des dispositifs particuliers qui sont mis donc dans les stades pour essayer donc de juguler la crise sanitaire. Et aussi donc de permettre à ce que cette compétition ne soit pas entachée, parce que d'abord il faut la sécurité des joueurs, la sécurité bien sûr des staff techniques et aussi le public qui viendra regarder les matchs de cette compétition.
Lors de cette compétition, les regards sont notamment tournés vers l'Algérie, tenante du titre.
Par rapport à l'invincibilité de l'Algérie, il faut dire que c'est une équipe qui est très forte, à la tête de laquelle se trouve un certain entraîneur qui impose toute sa stratégie donc à cette formation. Je crois que elle est l'ultra favorite de cette compétition, l'Algérie. Même un match amical contre le Ghana, elle a prouvé encore une fois la vision ou bien son objectif pour cette compétition. Je crois que c'est l'équipe très dangereuse pour repartir avec le trophée. Mais attention, il y a également d'autres formations comme le Sénégal, le Maroc, le Cameroun qui peuvent également titiller cette formation algérienne, sans oublier l'Égypte.
Parce que la Coupe d'Afrique des Nations, c'est une compétition qui a bien entendu déjà réservé de grandes surprises.
Oui, de grandes surprises, oui, effectivement. Quand on voit déjà le Cameroun, 2 éditions dernières, qui a remporté le trophée, on ne croyait pas justement à ce que le Cameroun arrive à ce niveau. Donc le Cameroun, à un moment donné, parce que ils ont perdu la plupart de leurs stars, mais ils ont quand même puisé dans leur tréfonds pour remporter ce trophée. Quand on voit également en 2013, le Burkina Faso, qui était un petit poussé, venu disputer la finale d'une telle compétition, je crois que la surprise peut être créée à tout moment, parce qu'il y a des équipes qui arrivent, hein, même si elles ne sont pas favorites, mais elles peuvent créer la surprise. Aujourd'hui, on parle bien sûr de l'Algérie, de l'Égypte, du Sénégal, du Cameroun. Mais il y a également des équipes comme le Nigeria. Le Nigeria, même s'ils n'ont pas une grande star comme on a connu dans les années 80, mais elle possède, cette formation possède des individualités qui, avec sur lesquelles le coach peut compter, même si Et finalement, ils ont changé de coach. Ils ont renvoyé pratiquement Guélan Ror, qui était l'entraîneur qui avait qualifié justement cette formation pour la phase finale. Malheureusement, ils ont connu des problèmes. Il est parti. Je crois que ces équipes également peuvent créer la surprise. Oui, aujourd'hui, on ne parle pas du Ghana. Aujourd'hui, on ne parle pas du Gabon. Aujourd'hui, on ne parle même pas du Mali, mais ce sont des équipes qui peuvent tenir bon devant l'Algérie, devant l'Égypte, devant le Sénégal, et puis ces encore.
Et quelle est la popularité de cette Coupe d'Afrique des Nations sur le continent? C'est un événement particulièrement important sur l'ensemble du continent africain?
Oui, c'est une fête. C'est une fête. C'est une fête au-delà même de la compétition. C'est une fête, c'est... le brassage des cultures, c'est effectivement aussi la rencontre, les retrouvailles justement entre les anciens joueurs. Cette compétition dénote beaucoup de choses. C'est une compétition très très importante pour les Africains parce que c'est le moment également de se retrouver. Surtout que cette compétition à un moment donné dégageait les équipes qui représentent le continent au mondial. C'est le moment de prouver justement sa valeur et puis sa ténacité donc vis-à-vis des adversaires et également qui se sont préparés pour cette compétition. C'est une grande fête, je crois qu'on ne doit pas la manquer. On doit respecter justement l'identité de cette compétition, même si on est en Europe, même si on est aux États-Unis, partout donc dans le monde, on doit respecter l'image de cette compétition, c'est très important.
Et vous évoquez la préparation de cette compétition, cette préparation a eu lieu pour certains pays africains lors de la toute récente Coupe arabe.
Oui, les préparations justement ont été attachées par la crise sanitaire. Les équipes ne se sont pas préparées comme il le faut parce que dans un passé récent, toute formation essaie donc de disputer 3 matchs amicaux avant de se rendre à la CAN. Mais cette fois-ci, ça a été compliqué à cause de la crise sanitaire. Avant de se déplacer, il faut faire le test. Il faut également éviter que les joueurs soient en contact avec d'autres joueurs pour ne pas être contaminés. Il faut également faire en sorte qu'on puisse faire arriver justement les joueurs qui évoluent dans d'autres clubs de façon un peu trop juste par rapport à cette compétition. Quand je prends par exemple le gardien sénégalais et puis Sadio Mané qui sont arrivés tardivement avec le Sénégal, les préparatifs n'ont pas été comme ce que peut-être le staff technique voulait par rapport à cette formation. Idem pour l'Égypte également, Salah qui a disputé ce match contre Chelsea et tout. Je crois que ça a été difficile, les préparatifs au niveau de chaque formation, mais la fête aura bel et bien lieu, surtout que il y a le président de la CAF qui a voulu que cette fête-là soit effective. Je crois que les dirigeants africains se réveillent par rapport donc à cette compétition. Même si aujourd'hui, ça fera tache bulle au niveau des autres championnats, la Ligue 1 par exemple, la Premier League, puisque les meilleurs joueurs africains sont partis pour quelque temps, je crois qu'aujourd'hui, c'est important quand même de voir les stars africaines évoluer sur le continent africain, surtout au Cameroun lors de la CAN.
Le journaliste d'Africa Top Sport, Franck Orokoti, au micro de François-Xavier de Calonne. Au programme de la CAN ce lundi, Maroc-Ghana, à suivre ce mardi, Algérie-Sierra Leone, Nigeria-Égypte et Soudan-Guinée-Bissau. Et puis en marge de la CAN, à Douala, 3 journalistes algériens ont reçu des coups de couteau par des individus qui voulaient voler leur téléphone. Leurs jours ne sont pas en danger. Au Soudan, un manifestant a été tué ce dimanche par les forces de sécurité, un décès qui a eu lieu lors de nouveaux rassemblements de milliers de personnes contre l'armée au pouvoir. Pour sa part, l'ONU a décidé de lancer des pourparlers avec des civils et des militaires pour mettre fin à la crise au Soudan. En Égypte, la libération de Rami Kamel, un militant des droits humains de confession copte. Il a purgé 2 ans de détention préventive pour appartenance à un groupe terroriste. Il s'était fait connaître lors de la révolte populaire de 2011 qui avait abouti à la chute du président Hosni Moubarak. Avant lui, un autre prisonnier a été libéré, le militant politique égypto-palestinien Rami Shaas. Il est arrivé samedi à Paris après plus de 900 jours de détention en Égypte. L'Égypte, où est arrivé le premier ministre libanais, Najib Mikati. Il est venu participer au Forum mondial de la jeunesse dans la ville de Sharm el-Sheikh. En Irak, des incidents lors de la session inaugurale du Parlement ce dimanche. À la suite de ces violences, un député a été hospitalisé. L'épidémie de Covid en France, le projet de loi qui doit transformer le pass sanitaire en pass vaccinal est discuté au Sénat. Le gouvernement espère toujours une entrée en vigueur de la loi ce samedi 15 janvier. Une large majorité de sénateurs se dit prête à voter pour le texte. Anne-Laure Blin, députée Les Républicains du Maine-et-Loire, a, elle, voté contre le texte à l'Assemblée nationale en première lecture. Elle est l'invitée de Pluriel à 19h et 23h, et elle explique pourquoi elle a voté contre ce texte.
Bah, écoutez, oui, effectivement, on a débattu pendant de longues heures en début de semaine de cette question du pass vaccinal. Moi, depuis le début de la gestion de cette crise sanitaire, que j'ai donc, en tant que députée, pris en cours de route, j'ai dénoncé la mauvaise gestion du gouvernement, parce qu'on voit bien qu'à plusieurs reprises, ils nous ont un petit peu, je dirais, menti sur les modalités de gestion. Et puis c'est vrai qu'on voit bien qu'aujourd'hui les différentes décisions sont prises à l'emporte-pièce, sans véritable perspective, et donc au final les Français sont un peu perdus face à l'incohérence des mesures. Donc c'est vrai que depuis le début, je me suis investie sur les différents textes qui nous ont été présentés au débat, et malheureusement, petit à petit, à chaque fois, ils avancent en crantant toujours un petit peu plus et en réduisant les libertés. Et je crois et je dois dire que le pass vaccinal est l'apothéose finalement de cette mauvaise gestion, puisque après avoir proposé le pass sanitaire pour effectivement inciter à la vaccination, mais qui concrètement sur le terrain n'a aucune influence du point de vue de la gestion de l'épidémie et du point de vue des contaminations, ils viennent désormais de nous proposer de voter le pass vaccinal, qui est donc la mise en place d'une gestion sanitaire uniquement basée sur le vaccin. Alors si le vaccin a le mérite de réduire effectivement pour un certain public, notamment les personnes âgées, notamment les personnes à comorbidité, de réduire les formes graves, pour un certain nombre de personnes de la population, il n'y a pas de risque très élevé. Et donc finalement, on voit bien que même si on vaccine toute une population à hauteur aujourd'hui de plus de 90%, on voit bien que les contaminations ne sont pas réduites, puisque sur beaucoup de territoires, notamment le mien de Maine-et-Loire, on reprend des mesures de port de masque, de jauge, de réduction d'accès à tel ou tel site. Et donc en vérité, la politique vaccinale, le tout vaccinal ne fonctionne pas. Donc il faut choisir d'autres modalités de gestion, et malheureusement aujourd'hui, le gouvernement ne nous en propose pas d'autres. C'est la raison pour laquelle, après avoir posé de multiples questions, de nous avoir finalement mené un petit peu en bateau, j'ai décidé de voter contre.
Anne-Laure Blin, députée Les Républicains du Maine-et-Loire, elle est l'invitée de Pluriel à 19h et 23h. Et puis Gabriel Attal annonce le déploiement de plusieurs centaines de centres de dépistage à proximité des centres de vaccination. 10 millions de personnes se font tester chaque semaine et il faut parfois patienter plusieurs heures pour réaliser ces tests. Le gouvernement veut permettre également aux pharmaciens de créer leur propre centre de dépistage. Conséquence du télétravail et de la crise sanitaire, 30% de réservations en moins dans les trains. La SNCF a donc décidé de réduire le nombre de trains en circulation. Elle réduit l'offre des TGV à 90% de la normale et celle des intercités à 80%. En ce qui concerne les trains du quotidien, la SNCF fait savoir que plus de 90% des trains régionaux TER circuleront, mais avec de fortes disparités selon les régions. En ce qui concerne l'Île-de-France, l'autorité régionale a demandé que le plan de transport des Transiliens ne soit pas modifié. Un nouveau féminicide en France, le quatrième depuis le début de l'année. Cela s'est passé vendredi soir à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis. Un homme de 29 ans a tué de plusieurs coups de couteau sa compagne et leur fillette âgée de 2 ans et grièvement blessé sa sœur. Cela s'est passé dans un immeuble de la rue de la Nouvelle-France où les habitants sont sous le choc. L'homme a reconnu les faits dimanche. Il avait déjà eu affaire à la justice pour des infractions aux stupéfiants, à la législation routière, pour des atteintes aux biens et des violences. Emmanuel Macron en déplacement à Nice pour évoquer les questions de sécurité. Le président de la République vient poser la première pierre du futur hôtel des polices qui, dans 3 ans, doit regrouper 2000 policiers municipaux et nationaux. Une alerte météo dans 5 départements français. De fortes précipitations sont attendues ce lundi dans les Pyrénées. De la pluie et de la neige. La vigilance rouge crue concerne les Pyrénées-Atlantiques et les Landes. Le risque de pluie et inondation concerne les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne et l'Ariège. Cette édition est terminée. Je vous retrouve à 15h pour le flash, 17h30 pour le journal. Excellente journée à l'écoute de Radio Orient.